VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Poursuite du mouvement de contestation en Algérie, de nouvelles manifestations sont en cours ce vendredi, un mois jour pour jour après le début de la contestation pour réclamer le départ du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans. La population reste mobilisée et la semaine dernière, le vendredi 15 mars, des manifestations avaient été enregistrées dans 40 des 48 préfectures du pays selon des sources sécuritaires. Le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il prolongeait son quatrième mandat au-delà du 28 avril, son terme constitutionnel, jusqu'à l'organisation de nouveaux scrutins présidentiels. Pour une analyse, Claire Morin-Gibault a joint le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, un spécialiste de l'Algérie, Riyad Sidaoui.
Oui, je pense, oui, le pouvoir algérien aujourd'hui dans l'impasse, je pense même plus, il est en train de vivre une situation révolutionnaire. Je voudrais dire, par situation révolutionnaire, la présence de trois facteurs éléments en même temps. La radicalisation de l'opposition, les divisions au sein du pouvoir, puis la position de l'armée, neutralité de l'armée, ou trahison de l'armée vis-à-vis du pouvoir. Je vois bien actuellement ces trois éléments présents dans le cas algérien.
Peut-on assister à une récupération par les islamistes, à votre avis?
Ce n'est pas maintenant. Pour le moment, on voit la majorité sont les activistes de la société civile radicale, des gauches, des démocrates. On ne voit pas des islamistes aujourd'hui. Mais après des élections libres, transparentes, peut-être que les islamistes, on les connaît tous, sont très forts dans la capacité de la mobilisation et de l'organisation. Mais à mon avis, l'armée algérienne, c'est une armée nationaliste qui va toujours barrer la route contre tous les extrémistes ou ceux qui revendiquent la violence.
Y a-t-il un risque d'essoufflement alors que le président Bouteflika a indiqué que la transition pourrait durer jusqu'en 2020?
Non, parce qu'il y a un problème au plan de la constitution algérienne. Soit on applique l'article 102 de la constitution algérienne, ça veut dire que le président est incapable d'exercer le pouvoir, soit l'article 107, ça veut dire déclencher l'état de l'exception. C'est encore plus que l'état d'urgence. Là, le président pourrait avoir plusieurs pouvoirs, mais là, on applique cet article, l'article 107, que dans les cas extrêmes, par exemple, une guerre totale en Algérie ou la menace directe des institutions de la République. Or, on n'a pas cette position. Donc, comment sortir? Le président a annulé les élections. Comment il pourrait rester au pouvoir après le 28 avril? Il n'y a aucun article dans la Constitution algérienne qui pourrait couvrir cette période d'après 28 avril.
Mais la Constitution ne pourrait pas être amendée ou modifiée?
Non, c'est trop tard. Déjà, la Constitution a été modifiée plusieurs fois. Lui, ce qu'il demande, et à mon avis, ce n'est pas Bouteflika lui-même. Bouteflika est gravement malade, mais c'est son entourage. Plutôt son frère, Saïd Bouteflika, dans ses lettres à la télévision nationale algérienne, ce qu'il demande de lui, c'est tenir une conférence nationale qui va organiser des élections, et après ces élections, je le retire. Mais les manifestants refusent, chaque vendredi refusent, et les manifestations sont le jour de vendredi, pas parce que ce sont des islamistes, mais parce que c'est le jour férié pour les Algériens, c'est le vendredi.
Riyad Sidaoui, spécialiste de l'Algérie et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique. À Afrique de l'Ouest maintenant, au Ghana, des dizaines de morts ce vendredi dans une collision frontale entre deux autocars sur une route du sud du pays vers 2h du matin. La mort d'au moins 60 personnes a été confirmée, a déclaré un commandant de police Joseph Antoui Guayou, en précisant que l'accident s'est produit dans la région de Bono-Ouest, à quelques 430 km au nord de la capitale Accra. Un des autocars a pris feu et l'autre a été broyé, selon l'officier qui note que les deux véhicules transportaient chacun une cinquantaine de passagers. 28 blessés reçoivent des soins à l'hôpital de Kintampo, déclare le docteur Kwame Arin, un médecin en poste sur place. Et toujours en Afrique de l'Ouest, mais la lutte contre les djihadistes au Sahel. Au Burkina Faso, deux personnes, dont le maire de Mankoy, commune rurale située dans la province de Loudalan, dans le nord du pays, ont été enlevées jeudi soir par des individus armés. C'est ce qu'annonce l'Union pour le Progrès et le Changement, UPC, un parti d'opposition. La région est en proie à des attaques djihadistes récurrentes et selon le communiqué de Rabbi Yameogo, le secrétaire général national de l'UPC, Momodou Maïga Dimeaou, maire de la commune de Mankoy, élu sous la bannière du parti, a été enlevé le 21 mars 2019 avec son chauffeur. Par ailleurs, l'offensive des groupes islamistes dans le nord du Burkina depuis 2016 s'est soldée par des dizaines de civils tués et des dizaines de milliers de personnes chassées de leur foyer. C'est ce qu'indique un rapport de l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch, publié ce vendredi. Parmi les violations sérieuses commises par des groupes islamistes armés, Human Rights Watch recense l'enlèvement et l'exécution de chefs locaux, 42 exécutions présumées, le pillage, notamment de troupeaux, la réquisition d'ambulances, la destruction d'écoles et les restrictions opposées aux femmes et aux villageois célébrant des mariages et des baptêmes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes au Sahel, au Mali, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdrahmane Babi, venu présenter des condoléances hier à Nioro dans l'ouest du pays, a été conspué par les familles de militaires tués lors de l'attaque contre Diora, qui a fait un total de 26 morts. Le précédent bilan de la bataille du Diora le 17 mars, dans le centre du pays, faisait état du décès de 23 militaires. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Tout est parti de l'établissement et la publication de la liste de 26 victimes qui a révolté les femmes de Kati. Si grâce à une médiation d'une journée, la marche des femmes de Kati a pu être annulée, tel n'a pas été le cas à Nioro du Sahel. Nous en avons assez, trop de morts, nos maris, nos enfants, ce sont eux qui meurent à longueur de journée. Ce n'est pas normal, c'est un complot, déclare une veuve de militaire devant le camp de Nioro. Comme elle, plusieurs veuves de militaires en tenue noire et rouge ont manifesté leur colère. C'est surtout les veuves et les orphelins de soldats tombés sur le champ de l'honneur, plus la population de Nioro qui ont refusé l'accès du camp militaire en formant un bouclier humain, nous confie Bakary Semega, un enseignant. Pour lui, l'État doit prendre des dispositions afin de trouver une solution à ces problèmes. Il ajoutera qu'avant l'arrivée de la délégation de Bamako, il y avait une vive tension à la veille au niveau du camp. Le général de brigade Abdrahmane Babi et les membres de sa délégation ont été obligés de renoncer à leur visite de présentation des condoléances aux familles de soldats savamment assassinés par les ennemis de la paix, conclut Bakary Semega. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, République démocratique du Congo, nouvelle sanction américaine contre les autorités de la CENI, la Commission électorale indépendante de la RDC. Le département du Trésor américain accuse son président Corneille Nangaa, son vice-président Norbert Basengezi et son conseiller Marcelin Mukolo d'une vaste corruption qui a sapé le processus électoral dans leur pays. Des détails avec Edir Isango.
Sous les sanctions annoncées jeudi par Washington, les actifs des messieurs Nangaa, Basengezi et Mukolo sont gelés. Il est interdit aux Américains d'effectuer des transactions avec eux. Segal Mandelker, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a fait savoir que les sanctions font suite à la corruption persistante des hauts responsables au sein de la CENI, de la RDC et de l'ancien gouvernement Kabila. Et cette corruption s'est faite, selon lui, dans le but d'empêcher et de retarder la préparation d'élections crédibles et inclusives. Les documents citent des détournements de fonds dans des opérations de la CENI depuis 2016. Le Trésor américain révèle notamment que des responsables de la CENI ont gonflé des 100 millions de dollars les coûts du contrat de la machine à voter électronique dans le but de s'enrichir sur les fonds excédentaires et aussi de soutenir les coûts des campagnes électorales du candidat Kabila. Ces sanctions tombent alors que des suspicions de corruption ont entaché les élections sénatoriales d'il y a plus d'une semaine. Lundi, le président Félix Tshisekedi a, à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle, suspendu l'installation des sénateurs et reporté sine die les scrutins des gouverneurs et vice-gouverneurs. Washington dit soutenir le peuple congolais dans la lutte contre la corruption. Les trois personnalités congolaises visées avec les procureurs de la Cour constitutionnelle étaient déjà interdites depuis un mois des séjours en territoire américain.
Agitation au Cameroun anglophone pour terminer. 20 joueurs de l'équipe de football de l'université de Boya, chef-lieu de la province anglophone du Sud-Ouest, enlevés mercredi lors d'une séance d'entraînement, ont été libérés dans la nuit de jeudi à vendredi après avoir subi des mauvais traitements. Les ex-captifs reçoivent actuellement des soins à l'hôpital. D'après les autorités locales, le kidnapping était l'œuvre de sécessionnistes armés. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.